8h49 et voici maintenant la transition d'Hervé et Gardette. Hervé, vous allez nous parler de betteraves, de Napoléon, des dents de la reine d'Angleterre et surtout de sucre.
De toutes mes bonnes résolutions pondérales prises au début de l'année 2020, il en est une qui a miraculeusement réussi à passer le cap du mois de janvier, du confinement, du déconfinement et de l'élimination des Lyonnais en demi-finale de la Ligue des Champions. Je ne mets plus de sucre dans mon café. Véritable sacrifice, tant il est avéré que cette boisson perd énormément de son intérêt sans cet additif.
Là, c'est très débattu, mais poursuivez.
C'est mon avis en tout cas. Alors, si je vous parle de sucre ce matin, Guillaume, c'est parce que ce produit est étonnamment resté dans l'ombre d'une des polémiques de l'été, la réautorisation des néonicotinoïdes pour lutter contre la jaunisse de la betterave à sucre. Petit résumé, au printemps, les champs de betteraves ont été attaqués par des pucerons, inoculant une maladie qui fait jaunir les feuilles et occasionne d'importants baisse de rendement. Pour sauver la filière et ses 46 000 emplois revendiqués, le gouvernement a autorisé début août un retour en arrière, à savoir l'utilisation pour les prochains semis d'insecticides interdits par la loi biodiversité de 2016, décision critiquée par les écologistes notamment, qui déplore le retour d'un produit considéré comme particulièrement létal pour les abeilles, sans compter que cette dérogation à la loi a pour effet d'affaiblir le droit de l'environnement, lequel n'en avait pas vraiment besoin. Alors comme souvent dans ce genre de cas, deux modèles s'opposent, celui de l'agriculture dite intensive et celui de l'agriculture dite raisonnée. Mais le modèle sucrier en tant que tel n'a pas été interrogé, alors qu'il occupe une place exorbitante dans notre alimentation, dépend de la santé de ses plus gros consommateurs, qu'il cause des dégâts environnementaux et qu'il a accompagné le développement de notre civilisation. Et c'est tout l'intérêt du livre que publient les éditions de La Découverte, Histoire du sucre, Histoire du monde, de l'historien britannique James.
Vous nous le montrez.
Voilà, absolument. Je me prépare à faire de la télé, si un jour jamais la télé m'appelle. En tout cas, l'intérêt de ce livre, c'est de replacer ce produit dans son histoire longue. Valvin est connu pour ses travaux sur l'esclavage. Et ce n'est pas un hasard s'il s'intéresse au sucre, tant le développement du premier, l'esclavage, est lié à l'appétit grandissant pour le second. Au départ, pourtant, le produit n'est pas populaire, au sens où seuls les plus aisés peuvent se l'offrir. En Angleterre, au XVIe siècle, c'est même un instrument de distinction sociale. Il est bon ton de signaler son rang en faisant fabriquer d'immenses sculptures en sucre. Ainsi, le comte d'Hertford, en 1591, reçoit la reine Elisabeth Ier dans un décor fait de châteaux, de pièces d'artillerie, de tambours et de toutes sortes d'animaux exotiques, tous en sucre. Revers de la médaille, les dents de la reine sont très jaunes et irrégulières. Il lui en manque beaucoup, au point que, selon un témoin, ça vous fait tomber votre stylo, on peine à la comprendre lorsqu'elle parle vite. Les caries, à l'époque, c'est un problème de riches. La démocratisation des aliments sucrés liée à la baisse des prix et l'expansion démographique vont conduire les Européens à chercher des terres pour y développer les plantations de canne à sucre, direction les Amériques, notamment le Brésil et les Caraïbes. La récolte réclame une main-d'œuvre abondante, la traite négrière y pourvoira, la vogue du sucre va décupler le commerce triangulaire. Alors vous me direz, la culture de la betterave n'a rien à voir avec cette abomination. Eh bien, si, un peu quand même, s'agissant de la France, puisque, je cite, « la révolution de 1789 et les soulèvements d'esclaves qui suivirent dans les îles françaises plongèrent la puissance coloniale dans la tourmente. La France devait trouver d'autres sources d'approvisionnement. Napoléon décida de promouvoir la production de sucre de betterave, obligeant les paysans à la cultiver au nom de la souveraineté nationale. Des écoles dédiées au sucre de betterave sont même créées. L'abolition de la traite négrière, dont on célébrait hier la journée internationale, a donc indirectement contribué au développement de la filière de la betterave à sucre, même si aujourd'hui encore, elle représente moins d'un quart de la production mondiale. La canne reste dominatrice et, comme écrit James Valvin, sa culture fait toujours appel à une main-d'œuvre malléable et sous-payée. Pensez-y la prochaine fois que vous sucrerez votre café.
Vous ne sucrez pas votre café, merci.
C'est ce que je fais un peu le début de l'année, si vous avez suivi.
Mes gardettes.